La relève sur Radio Campus Paris.
Et c'est reparti pour 45 minutes, peut-être 30, avec deux invités, peut-être un, on ne sait pas encore qui sont des talents d'aujourd'hui, et c'est notre pari, des talents de demain. Aujourd'hui, on va parler de cuisine et de famille. Mes invités sont l'un cuisinier, l'autre actrice. Bonsoir Éloi Spindler.
Bonsoir.
Je viens de rentrer dans une virgule, c'est pas grave, c'est un accident très courant en radio, surtout avec moi. Vous êtes un jeune chef, vous êtes au restaurant Orgueil, votre restaurant, et je vais vous demander qu'est-ce qu'on mange ce soir.
Ce soir, chez Orgueil, on a plusieurs plats, on est sur la fin des champignons. Donc on va avoir une poêlée de champignons, châtaignes et salicornes. Et sinon, on a toujours notre classique, le pitivier de pigeon, qui est servi avec un jus corsé.
Vous êtes un jeune chef, d'ailleurs, est-ce qu'on vous appelle chef, cuisinier? Qu'est-ce que vous préférez? Que je ne sais pas me tromper pour la suite.
Ça m'importe assez peu. Bon. Mes équipes, certains m'appellent chef, certains m'appellent correctement. Généralement, l'expérience du milieu fait qu'il y a un chef qui sort régulièrement pendant le coup de feu, mais je n'imposerai.
Ça, c'est quoi? C'est la télé? C'est le passage par la télé?
Non, je pense que c'est chef. Je pense que c'est les parcours. Il y a beaucoup de chefs qui exigent de se faire appeler chef, mais du coup, ça laisse des séquelles, on va dire.
Est-ce qu'on doit aimer manger pour devenir soi-même chef?
Je pense que c'est un vrai plus, oui, en effet.
Vous étiez gourmand?
Pas particulièrement, mais j'étais curieux. J'adorais manger, je ne mangeais pas plus que ça, mais j'étais très curieux.
Vous adorez regarder faire la cuisine?
J'adorais regarder faire la cuisine et j'adorais essayer de comprendre ce que je mangeais surtout.
Ah oui, donc quand on vous amène un plat, il faut que vous vous décomposiez, savoir ce qu'il y a dedans, comment ça a été fait.
Exactement.
Donc ça veut dire que chez vous, des gens mangeaient bien, parce que ce n'était pas une cuisine basique pour y chercher à comprendre.
Ouais, j'avais mon père et ma mère cuisinaient extrêmement bien, et ma grand-mère tenait une maison bourgeoise en province, et donc régalait tous les dîners mondains de Chalon-sur-Saône.
D'accord. Et c'est comme ça qu'est née votre vocation?
Je pense que c'est comme ça, mais c'est surtout en cuisinant le mercredi après le collège pour mon petit frère. Au déjeuner, en fait, il n'y a pas école mercredi après-midi, donc c'est moi qui faisais à manger à midi pour mon petit frère. Et ça ne ressemblait pas à grand-chose à l'époque, c'était des espèces de burgers avec du pain de mie harissa et un steak haché déglacé au vinaigre balsamique. C'était le grand classique.
Mais ça. Il était content quand même.
Mais il était ravi.
Mais sérieusement, c'est cette expérience-là de le voir content qui vous a donné envie de continuer ou...
Non,
c'était plus... Visiblement, là, il n'y avait pas de technicité à l'époque encore.
Non, je pense que j'étais pas encore sur le côté généreux de la cuisine. J'étais plus essayer de montrer. Voilà, c'est ça. C'était plus de l'expérimental.
Mais ça vous donnait quand même envie.
Oui, totalement.
Alors, vous avez un parcours étincelant, en tout cas, un parcours qui fait rêver, quoi. Ferrandi.
Tout à fait.
La meilleure école, je crois. Enfin, une des meilleures.
Ça l'a été pendant longtemps. Je ne sais pas si ça l'est encore.
En tout cas, c'est un nom qui parle encore. La Tour d'Argent, le Plaza. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous décidez d'arrêter pour vous lancer vous-même?
C'est plusieurs choses. Déjà, je décide d'arrêter le milieu des restaurants gastronomiques pour m'orienter vers la bistronomie. C'est là où j'ai mon premier poste, de chef, d'ailleurs.
C'est quoi la différence?
Alors, la bistronomie...
Simple, non?
Ouais, il y a quelque chose de plus simple. Il y a quelque chose aussi autour du produit. C'est plutôt des produits moins nobles. C'est des moyens qui sont plus modestes, qui sont mis à disposition des chefs dans ces restaurants. Donc, on essaye de faire le mieux avec le moins. Quoi.
Et donc, vous faites partie de cette jeune génération, vous n'êtes pas le premier que je croise, qui préfère monter un restaurant bistronomique que de continuer la course aux étoiles. Aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt. Est-ce que c'est un mouvement générationnel? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas le seul dans cette situation?
Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont plus dans cette course aux étoiles, parce que ça...
Ça a grillé des gens?
On connaît déjà bien l'histoire de Bernard Loiseau. Mais je pense surtout que maintenant, la priorité, c'est surtout d'être, pour les chefs en tout cas, c'est de retrouver, de relier avec une vie de famille. Et comme a commencé Pierre Gagnaire, à essayer de lier l'art et la création à la cuisine. C'est pour ça qu'on a des chefs comme Adrien Cachot qui font des choses absolument merveilleuses, même si ça peut paraître bizarre au premier abord, mais qui essayent vraiment de s'éloigner de ce milieu des récompenses. Enfin. Personne pour parler.
C'était dur de travailler dans un. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez bien évidemment parlé pour vous. Parce que personne ne voit le geste que vous faites en même temps. Normalement, je ne devrais pas commenter le geste. mais moi, je suis perdu. Est-ce que. Mais c'était comment de travailler dans pour les grands noms, la Tour d'Argent? C'est très dur ou au contraire, c'est facile parce que vous êtes beaucoup
Alors personnellement, ça a tué un mythe dans certains des restaurants, mais c'est une expérience que je recommande tout de même à chaque cuisinier. En termes de dépassement de soi, c'est assez unique comme expérience.
Et est-ce que, comme on dit chez moi, vous avez préféré un petit chez vous à un grand chez les autres en créant votre maison ?
C'était un peu cette idée-là. L'idée, c'était j'ai été chef dans deux restaurants dont je trouvais l'expérience client incroyable, mais où en fait les choses n'étaient pas suffisamment mises en œuvre pour la réussite de Sophie. Et j'étais frustré en fait de pas rater, mais de pas avoir le succès que j'estimais que le restaurant méritait. Et donc je me suis dit, mon resto, mes erreurs, ma réussite.
Mais c'est aussi peut-être, moi je pense que carrément autre chose, pour avoir parfois rencontré des jeunes qui sont ingénieurs aéronautiques et qui disent on fait ça parce qu'on veut construire un avion, et finalement on se finit par travailler pendant 20 ans sur un boulon. Est-ce que c'est la même frustration quand on est dans une très grande maison, je sais pas, où on va être aux poissons et on fait que des poissons, alors que là vous avez la chance de faire une carte, de voir tous les plats, de donner votre avis sur tous les plats.
Non, parce que moi j'estime que de toute façon l'apprentissage se passe par la répétition, donc je pense que chez Orgueil on a une manière d'apprendre qui est assez différente, parce qu'au lieu d'expliquer un mouvement, on essaye d'expliquer une vision, et ensuite le mouvement vient ensuite. Mais moi j'ai adoré répéter, même si évidemment il y a des frustrations et que des fois c'est un peu pénible de se réveiller pour éplucher pendant 3 mois, mais je pense que la répétition révèle quelque chose chez les jeunes, ça c'est clair. Enfin, à moi en tout cas, ça m'a révélé quelque chose.
Et c'est quoi la vision d'Orgueil ? Ça, là, il ne fallait pas dire ça hein, tout de suite. Je fonce, vous avez dit, nous, ce n'est pas le mouvement, c'est la vision qu'on apprend d'abord.
Alors, c'est une vision éco-responsable et zéro déchet, pour être totalement franc. Ouais. On a ouvert Orgueil en l'appelant Orgueil pour un petit contre-pied, mais c'était vraiment du second degré. L'idée, ce n'est pas de dire que je suis fier de moi, c'est de dire que je suis fier de mes équipes et des producteurs avec qui on travaille.
Et donc, quand on prépare un produit, on réutilise ce qui reste, tout est réutilisé.
On retravaille et on fait des extractions sur 98% des produits bruts qui rentrent dans le restaurant.
Comment, pardon ?
98% des produits bruts qui rentrent dans le restaurant. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément traiter, notamment la peau d'artichaut, c'est toujours l'exemple que je prends.
Les parce poils,
que
c'est très surtout, c'est encore pire. Hein.
Bon, on peut quand même extraire du jus, mais en fait, demande tellement de travail pour l'utilisation qu'on en a qu'on est obligé d'en faire une partie.
Et ça attire des jeunes aujourd'hui ?
J'ai l'impression. Je pense qu'on, nous, déjà, on ne communique pas suffisamment là-dessus. Je pense que c'est un truc qu'on va changer d'ici quelques mois. Parce que c'est une approche qu'on maîtrise de mieux en mieux et dont on ne peut être que fier. Donc maintenant, on a encore plus monté le niveau avec le nombre de couverts qu'on arrive à faire. On arrive à travailler des animaux entiers. Donc ça aide non seulement la planète, mais ça aide aussi l'agriculteur. C'est des vraies problématiques que les agriculteurs ont de ne pas vendre que... C'est facile de vendre les bons morceaux. Maintenant, il y a encore... encore les avant à vendre et ça c'est plus compliqué, donc soit ça part en steak haché, soit à la poubelle pour les moins chanceux.
Donc c'est aussi pour vous, comme restaurateur, on peut aussi dire restaurateur, chef, cuisinier, il y a beaucoup de synonymes, c'est aussi pour vous une manière d'avoir un comportement responsable avec vos fournisseurs.
Totalement.
C'est de les aider et d'être avec eux.
C'est encore perfectible de notre côté, mais on œuvre vers le mieux chaque jour.
Ça veut dire que vous travaillez avec un petit nombre de fournisseurs, plutôt en région parisienne, vous êtes aussi dans la cuisine de proximité, enfin des produits de proximité ?
J'essaye totalement de faire un juste milieu. Ça fera grincer des dents à chacun, mais je préfère quelqu'un qui travaille bien et qui est un peu loin. C'est pas juste une empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle va à partir du moment où on nourrit l'animal. Donc, si c'est un mec en Île-de-France, mais qui achète ses produits en Ukraine, mauvais exemple. Je change mon exemple. Qui achète ses produits en Allemagne, bah au final, la création de l'aliment aura une plus grosse empreinte carbone que si je l'achète à Paris.
Et vous travaillez que les produits de saison ?
Bien sûr.
Donc là, chez vous, pas de tomates en ce moment ?
Non, certainement pas.
Bah, je sais pas.
Mais... Ou alors, si, des tomates qui ont été séchées, des tomates qui ont été marinées, mais que des produits qui ont été travaillés au moment de leur production.
Et vous, j'ai lu que vous fabriquez vous-même vos condiments ?
Oui, la plupart.
C'est une partie
qui rentre dans le zéro déchet. Un légume qui s'abîme, au lieu de le jeter, je vais faire un vinaigre avec, je vais faire un alcool avec, d'ailleurs. Maintenant, les équipes sont de plus en plus. Les équipes commencent à comprendre un peu la vision que je veux amener, ils sont de plus en plus force de proposition et ça me rend vraiment fier parce que du coup, ça fait sens.
Vous êtes combien ?
En ce moment, on est 10 en cuisine. On est ouvert 7 sur 7, midi et soir.
Ah oui, donc ça tourne. Il n'y a jamais 10 personnes en même temps,
non.
Si
non, on est 6 maximum.
Et, d'accord, vous êtes 6 en même temps en cuisine. Vous êtes très jeune. Mm. Est-ce que ça vous fait... Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus dur, de diriger une équipe de 6 personnes?
Bah, je pense que c'est comme tout, il faut se former. Moi, j'ai été un peu formé à la dure. J'ai fait beaucoup d'erreurs au début en management. D'abord, j'étais un petit chef qui voulait, encore à l'époque, récupérer tous les trophées. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, en fait, qu'il fallait être aussi exigeant avec, fallait être plus exigeant avec soi-même qu'avec ses équipes. Donc, la première claque dans la gueule, j'ai eu des problèmes, enfin, pas des problèmes, mais des querelles dans mon premier resto. Le deuxième, je ne sais pas par quel miracle, j'étais catapulté chef d'une équipe de 20 personnes à 23 ans. Et donc là, bah, c'est apprentissage à la dure et j'ai essayé de pas répéter les erreurs. J'en ai fait d'autres et j'ai l'impression de... J'en fais encore quelques-unes sur orgueil. Bon, plus sur des trucs vraiment RH, les plannings, le nombre d'heures entre deux services, etc. Mais sur l'humain, je pense que j'ai une équipe qui est plutôt contente de travailler avec moi.
C'est aussi parce que vous avez peut-être choisi, vous essayez peut-être mieux les choisir. L'équipe de 20, vous ne l'aviez pas choisi.
Totalement, totalement.
Là, vous êtes avec des gens avec qui vous sentez des affinités, des...
Oui, totalement. Totalement. Et en plus, on est passé par plusieurs pieds de recrutement, mais la plupart ont juste poussé la porte pour les valeurs que pour le salaire. Quoi. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, le salaire est hyper important, il n'y a pas de sujet.
C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup dire dans le monde de la restauration que c'est très compliqué, qu'on ne trouve pas. Il y a des restaurants qui sont fermés, qui ne font qu'un service sur deux parce qu'ils n'ont plus assez de personnel.
Oui, bah, je pense qu'il y a un vrai... Je pense que c'est deux choses. Je pense que la plupart des entrepreneurs ont commencé une remise en question, tout le monde ne l'a pas fait. Mais oui, bah, c'est 80 heures par semaine pour 1200 euros par mois. Ça ne peut pas marcher très longtemps.
Ou alors, en tout cas, il faut avoir un projet sexy, c'est ce que...
Bah, ça aide, mais dans tous les cas, les gens ont besoin de manger, quoi. Donc,
à quelle famille de cuisiniers vous vous identifiez? Vous vous diriez que vous appartenez? J'imagine il y a des dynasties. Quand on soit des écrivains, ils ont tous des sources d'inspiration. Qui vous inspire? Personne.
Si, mais c'est plus des parts d'inspiration. Il y a deux dieux en cuisine, c'est Alain Ducasse et Pierre Gagnaire. Pierre Gagnaire sur la créativité, Alain Ducasse sur l'entrepreneuriat. Et derrière, on peut mettre à côté Dan Barber et Alain Passard qui, eux, commencent à contrôler leur chaîne de production. Et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant.
Et comme cuisine que vous faites, ce que vous proposez, ça, c'est quoi? J'imagine c'est plus une cuisine moderne que
c'est une, la façon 3 gros. C'est une cuisine qui est très simple. L'idée, c'est de travailler vraiment le produit de A à Z. Si je dois m'identifier quelqu'un en termes de cuisine...
Vous identifiez, mais une que vous aimez bien ou une filiation qui vous plaît?
C'est vraiment la cuisine de produits, le restaurant que j'ai très envie d'essayer, c'est Table en ce moment, de Bruno Verju, qui est un ancien critique et qui lui met vraiment en avant le produit. Bon, c'est un peu onéreux, mais ça a l'air dingue en termes de vision. Après, ça marche pas pour tout, parce que le problème, c'est que choisir que le meilleur des produits, ça a un coût et tout ce qui sort de la nature n'est pas parfait.
Ouais.
Ce serait un peu trop beau.
Vous arrivez même à rendre le chou-fleur sexy?
Ouais, je pense que beaucoup ont réussi avant moi. Hein. Je pense que j'ai rien inventé du tout. Hein. C'est l'inspiration. Je lis aucun livre de cuisine typiquement, par exemple. C'est que ce que je goûte.
C'est-à-dire qu'en permanence, vous êtes quand même un petit chimiste?
Je le suis de moins en moins. Je le suis de moins en moins. Je fais de plus en plus confiance à mes équipes. Mais oui, l'idée, c'est par les essais qu'on réussit. Typiquement, les sauces comme on les fait, je pense pas l'avoir inventé, mais je l'ai pas vu ailleurs, de vraiment utiliser la viande. Et les os et les carcasses comme du thé plutôt que comme une coloration, où en fait on fait un séchage à chaud pour que la viande relâche un maximum de sucre et de goût dans les sauces.
Et aujourd'hui, par exemple, vous êtes obligé d'avoir un plat végétarien? Ou est-ce que vous avez pas toujours?
Entrepreneurialement, c'est intelligent. Maintenant, pour moi, c'est aussi hyper important. Il y a des gens qui sont végétariens. Moi, j'ai du mal avec le discours de c'est n'importe quoi de manger une viande trop cuite, c'est n'importe quoi, chacun mange comme il veut, tant que l'animal ou le produit a été, à mon sens, respecté, chacun mange ce qu'il veut, c'est un droit primaire, on va dire.
Alors, quand vous créez ce restaurant, vous avez créé un restaurant et un speakeasy.
Oui.
Qu'est-ce que c'est un speakeasy,
pour ceux qui ne savent pas? Un speakeasy, c'est une partie cachée dans un restaurant. Là, l'idée, c'est en fait, au fond du restaurant, il y a un miroir sans teint. Et en fait, on donne un mot de passe pour accéder à cette salle, à cet espace, qui est un menu un peu différent. L'idée, c'était vraiment de faire deux concepts totalement différents. Et donc, il y a une partie qui va être vraiment intimiste. On voulait vraiment un cinéma face à la cuisine. Il n'y a pas de vitre entre la cuisine et le speakeasy. C'est des banquettes face à la cuisine, avec un petit miroir pour ceux qui sont dos à la cuisine, parce que sinon, au début, ils avaient un torticolis, c'était pas terrible non plus. Et par contre, une partie plus conviviale sur l'avant pour une cinquantaine de couverts.
Et ça, vous faites ça tous les soirs, donc midi et soir?
Non, le speakeasy n'est ouvert que le week-end ou déjeuner.
Ah oui, donc vous avez deux menus ce jour-là.
C'est ça.
Ouais, donc ça fait quand même pas mal de boulot. Vous ne vous économisez pas. Vous aimez bien vous mettre des contraintes en plus?
Oui, c'est important. Je pense que de toute façon, c'est comme ça.
Sinon, vous vous ennuyez?
Je pense que je m'ennuie un petit peu, mais c'est surtout que c'est comme ça qu'on progresse, en se mettant un petit peu en difficulté.
Vous êtes aujourd'hui très présent aussi sur les réseaux sociaux. C'est indispensable aujourd'hui pour se faire connaître quand on est un jeune chef?
Je ne sais pas si c'est pour se faire connaître, mais entrepreneurialement, je vais aller même encore plus loin. En restauration, c'est très facile d'être plein samedi, vendredi et samedi. Le plus compliqué, c'est d'être plein 7 sur 7. Et c'est ça qui fait qu'en fait, un restaurant fonctionne et peut se permettre de mieux payer ses employés et peut se permettre de prendre suffisamment d'employés et de ne pas leur faire faire des heures à tirer la rigueur. Donc, c'est une évidence que c'est un besoin. Mais c'est pas forcément de l'ego, c'est plus je veux que mon restaurant marche, il faut que je communique dessus.
Mais en même temps, vous êtes mis en scène, vous vous amusez bien, on a l'impression, oui, après, quand on vous suit.
J'ai pas envie d'avoir quelque chose de léché ou de trop léché ou qui ressemble à quelqu'un d'autre. Mon idée, c'est pas de copier sur la communication, c'est vraiment d'avoir de faire ce qui m'amuse, en fait. Je pense que c'est ça qui est.
Et alors, ça vous amuse d'avoir un espèce de truc avec des couteaux ninja? Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu récemment.
Ça, c'est totalement de l'ego trip. J'ai une enfance assez geek et j'ai un pote qui m'a dit il y a 3 mois, je fais des harnais pour quelques pratiques sexuelles différentes. Et il m'a montré des vidéos. Je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui vas me faire mon harnais en couteau. Parce qu'en fait, il y a une problématique en cuisine, c'est que chacun fait hyper attention à ses couteaux et donc on ne doit pas y toucher. Et en fait, dès que quelqu'un en touche, c'est un peu comme le samouraï et son sabre, selon ce qu'on apprend dans la culture populaire. Et donc l'idée, c'était que j'en avais non pas marre qu'on utilise mes couteaux, mais qu'on me les utilise sans me le demander. Et en même temps...
Ah oui, je sais pas comment expliquer, vous êtes bardé de couteaux.
Ouais, c'est ça.
Ah, vous l'utilisez vraiment, c'est pas que pour faire des vidéos?
Ah non, je l'utilise vraiment. Maintenant, à chaque fois que je rentre en cuisine. Bon, là, il est en réparation, mais en plus, on commence à faire des lives sur TikTok parce que bon, faut suivre aussi la génération. Mais les gens, ça les fait vraiment marrer dès que je le sors, quoi.
Et donc, ça empêche que les gens vous le prennent sans vous le dire parce que vous avez toujours vos couteaux sur vous.
C'est ça, c'est l'idée.
Mais ça doit être lourd quand même, non?
C'est un petit poids, mais bon, encore une fois, référence geek. Son Goku et ses petits poids sur les mains, c'est la même chose, ça me fait aussi beaucoup rire.
Et c'est vous qu'on voit, enfin, vous avez inventé un personnage sur le réseau. Vous êtes tel quel?
Je pense que.
Parce que vous êtes plutôt doué, donc vous êtes peut-être. C'est parce que c'est votre génération, vous avez toujours été dessus, peut-être.
C'est l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut rencontrer des gens, discuter avec eux, savoir ce qui marche, savoir ce qui ne marche pas. Et on fait des erreurs et il faut juste s'accrocher et. Et normalement, ça évolue.
Ça fait plusieurs fois que vous parlez d'entrepreneuriat. C'est important pour vous aussi d'être un chef d'entreprise, d'être un créateur d'entreprise, de grossir peut-être un jour, d'avoir plusieurs restaurants?
C'est potentiellement, pour moi, ce qui est le plus important. Je pense que la cuisine... J'ai passé 10 ans de ma vie dans une cuisine en tant que cuisinier. Au bout de 10 ans, suite à mes erreurs managériales, j'ai commencé par rentrer dans la réserve militaire, juste pour voir un management différent. Ça a été hyper intéressant. Et puis, en voulant juste ouvrir mon restaurant, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers, que l'entrepreneuriat est un autre métier, mais qui me passionnait tout autant. Et donc, j'essaye de jouer le plus possible sur les deux.
Donc, un jour, vous allez vous former pour aller plus loin encore?
Je me forme déjà depuis 2 ans. J'ai 2 associés depuis déjà 2 ans qui m'apprennent vraiment plein de choses et qui me donnent plein de conseils pour éviter les erreurs qu'eux ont commises. Donc, il faut être vraiment à l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute sur ces moments-là. Et puis là, il y en a un quatrième qui nous a rejoint, qui est absolument génial. Et on commence une levée de fonds pour ouvrir 2 autres restaurants.
Ah oui, carrément.
Oui.
Vous ne faites pas semblant. Tout de suite, 2.
C'est l'idée. Ça prend un petit peu de temps d'ouvrir plusieurs restaurants. Et en fait, si on veut continuer cette vision, en fait, il faut grossir pour aller de plus en plus loin dans cette éco-responsabilité et ce bien consommer.
Et ça sera aussi à Paris ou c'est ailleurs? Bon, je ne vous montre pas où, mais ça sera...
A priori, ce sera à Paris, les deux suivants.
D'accord. Il est 18h20. Est-ce que je peux juste, avant d'écouter un peu de musique, vous demander une recette facile pour ce soir, pour ceux qui nous écoutent, comme ça?
Avec plaisir.
Vous êtes très gentil, vous avez proposé d'en apporter. J'ai dit non, mais je regrette déjà.
Alors, c'est une recette très simple. Je sais que tout le monde n'a pas forcément le budget. Mais qui fonctionne assez bien avec l'éco-responsabilité. C'est une recette sur laquelle on rigole beaucoup avec un de mes meilleurs amis, Vincent, d'ailleurs, si tu nous écoutes.
C'est pour toi, Vincent.
C'est des pâtes au citron. Donc il y a deux méthodes. L'idée donc c'est une pâte sèche. L'idéal une pâte au blé complet qu'on commence à cuire à l'eau bouillante pendant 9 minutes pour l'avoir al dente. À côté, il y a deux solutions. Soit on fait juste un jus de citron avec juste les segments qu'on réserve dans un bol, une échalote qu'on vient émincer très finement, revenu au beurre. Une fois qu'elle est revenue, je vais y arriver. On crème, on ajoute le citron. Et le petit tips, c'est de faire des citrons, c'est de mettre du citron au sel. Donc ça, on peut le trouver en supermarché, mais on peut aussi tout à fait le faire soi-même. C'est du citron qui est mariné pendant du sel, sous presse, pendant au moins 15 jours. Donc ça donne une conservation et ça attendrit la chair, sans pour autant le rendre amer. Une fois que les pâtes sont cuites, on met un petit peu d'eau de cuisson pour notre sauce, l'allier, on ajoute nos pâtes, on attend que ce soit bien laqué et c'est prêt à servir.
Et l'autre façon ?
C'était du coup avec le citron au sel.
Ah, pardon. C'est le citron au sel, d'accord. Est-ce que vous avez parfois le temps d'aller au cinéma, est-ce que ça vous intéresse ?
Ça m'intéresse beaucoup, j'ai pas trop le temps en ce moment, ça fait très longtemps que je suis pas allé.
Bon, écoutez, nous on va y aller après la pause musicale, je crois qu'on vous attend dans votre restaurant, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie d'être venu, je vous remercie de nous avoir donné une recette. Et donc, si on veut un truc avec des couteaux, on va voir votre ami.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup. On écoute en attendant Kalika avec Yael, les glaçons. C'était Kalika Fitch Yel, les glaçons. Et ça nous a mis en joie dans le studio et en régie.
La relève sur Radio Campus Paris.
Stéphanie Blanchou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous m'entendez bien ? Tout va bien ?
Oui, moi je vous entends bien. Vous aussi, vous m'entendez bien ?
Parfaitement. Et je pense que les auditeurs aussi. Merci d'être avec nous. Donc je le redis, vous êtes à l'affiche d'un film formidable. S'il y a un film à voir en ce début d'année, c'est bien celui-là. Ça s'appelle La Ligne. C'est d'Ursula Meyer. Et alors, on a demandé au jeune homme qui était avec nous juste avant, qui était cuisinier, s'il avait le temps d'aller au cinéma. Il a dû retourner dans son restaurant. Mais vous, est-ce que vous avez le temps d'aller au restaurant et est-ce que vous aimez cuisiner ?
Alors, j'ai le temps, je trouve le temps d'aller au restaurant. Et J'aime cuisiner, mais je cuisine pas très bien. Donc, je cuisine vraiment basique. J'ai la chance d'être entourée de personnes qui cuisinent très bien dans ma famille. Mais j'adore aller au restaurant. Mais...
On vous transmettra alors, on vous transmettra sa recette de pâte au citron. Ça avait l'air pas mal du tout. On va essayer de pas trop raconter l'histoire du film, mais plutôt de parler de vous, de la manière dont vous avez abordé ce rôle. Vous êtes belge, qui pour moi est un atout formidable dans la vie, et plutôt chanteuse, si j'ai bien compris. En Belgique, vous êtes d'abord connue comme chanteuse.
Je suis d'abord actrice. J'ai vraiment une formation d'actrice.
Et ben voilà, j'ai mal compris. Pardon, allez-y.
Du coup. Pendant ma formation, j'ai eu des cours de chant et ça m'a donné envie d'explorer aussi cette voie-là. Et donc, très naturellement, j'ai en fait vraiment entamé mon parcours d'actrice. J'ai fait beaucoup de théâtre avant d'arriver plutôt en télé, en cinéma. Et j'ai monté pas mal de projets personnels, donc des écritures propres, avec une équipe d'acteurs rencontrés au conservatoire. Et puis, parallèlement, j'ai commencé à écrire des chansons, à m'entourer bien pour m'aider pour les composer. Et puis, j'ai fait 2-3 albums qui sont sortis en Belgique et en Suisse, qui est mon deuxième pays. Mon père est suisse, donc du coup, d'où la rencontre aussi après, voilà, avec Ursula Meyer et puis tout ce qui a découlé de ça.
Justement, vous l'avez rencontré comment, Ursula Meyer ? Vous aviez déjà vu un de ses films ? C'est vous qui avez été la voir ? Elle est venue vous chercher ? Comment ça s'est passé ?
Non, en fait, on a des amis communs. Donc, on s'est d'abord rencontrés humainement avant de se rencontrer artistiquement. Et puis, je lui ai demandé de réaliser le clip d'une chanson que j'avais composée, qui était sur un album qui est sorti en 2015, que j'avais travaillé avec Marcello Giuliani, que très probablement vous connaissez. Et toute l'équipe des musiciens de Loudoyon. Et du coup, Ursula a réalisé ce clip et puis elle m'a demandé de jouer dans son téléfilm qu'elle avait fait pour Arte avec Fanny Ardant et Timothée Klein. Donc j'avais 2-3 jours de tournage sur ce film-là. Et puis je crois ce qui a vraiment scellé cette envie de co-écrire ensemble la ligne, c'est un seul en scène que j'ai joué et avec lequel j'ai beaucoup tourné pendant 2 ans, que j'ai joué au théâtre et qui s'appelle Je suis un poids-plume et qui parle en 2 mots d'une femme qui se sépare et qui, au moment de sa séparation, découvre la boxe anglaise et se met à découvrir ce sport. Et finalement, c'est grâce à ce sport et grâce à cet entraînement que sa séparation va être de plus en plus facile à gérer et qu'elle va la dépasser tout en... Elle va vraiment retrouver une force de vie grâce à ce sport. Et je crois que du coup, on a pas mal parlé avec Ursula d'une envie d'écrire un moment ensemble. Et puis est venue naturellement cette envie d'explorer un personnage féminin violent. Alors évidemment, c'est très à contre-courant de ce qui se fait ou de ce qui devrait... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant aujourd'hui. C'est sûr qu'un personnage féminin qui se bat... plus que jamais, c'est à contre-courant.
Lu que vous aviez dit que vous vouliez faire un film. Alors vous dites un personnage féminin. Moi, j'ai lu que c'était sur la violence des femmes. Alors, c'était plus général. Vous, c'est pour rester dans le particulier plutôt ?
Non, c'est-à-dire qu'au départ, on avait envie, on était fascinés par des personnages masculins qui sont incarnés par des très grands acteurs américains souvent et qui sont effectivement très forts et qui ont des... Un exemple tout simple, c'est Taxi Driver, par exemple, pour ne citer que lui, mais il y a tous ces films, voilà, il y a Sean Penn, enfin, il y a plein d'autres magnifiques personnages masculins qui incarnent quelque chose d'extrêmement violent. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on donne ces traits-là à une femme de 35 ans ? Alors évidemment, ça, c'était le point de départ, vraiment. Et Ursula, qui a toujours besoin de travailler avec des territoires, elle s'est dit, ben... Pour ce film-là, le territoire de mon film, c'est le corps de Margaret. Ce sont ses cicatrices, c'est ce qu'elle porte en elle. Et peu à peu, évidemment, est venue d'où vient cette violence. Et peu à peu, on a commencé à ouvrir un peu le spectre. Et s'est dessinée peu à peu l'histoire de cette famille et la violence de cette mère, finalement, qui est moins physique, agressive au premier degré, mais qui néanmoins est tout aussi, voire plus toxique. Et évidemment, avant de parler d'un sujet comme celui-là, on s'est beaucoup documenté pour ne pas faire fausse route, pour qu'on ait toujours quand même une forme d'empathie par rapport à cette femme. On avait été notamment rencontrer la directrice d'une association qui est à Genève et qui s'appelle Face à Face et qui est une association qui traite en fait des femmes violentes qui viennent là et c'est très tabou. Donc évidemment, ça nous a plu d'essayer de relever ce défi-là et Ursula, elle est toujours un peu dans son cinéma. À contre-courant, mais c'est une grande qualité, je crois. Enfin, c'est-à-dire, elle arrive avec des sujets un peu au départ, pas forcément faciles d'accès, à les rendre universels, et finalement, ça devient comme un conte. Et cette histoire de la ligne avec ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puisqu'il y a eu un long moment d'écriture, des longs mois, et puis elle qui s'est réemparée de l'écriture, puis Antoine Jacou, son co-scénariste habituel, qui est venu travailler aussi sur le scénario sur la dernière étape, et puis Robin Campillo, avec qui on a eu pas mal de consultations. Donc il y a eu beaucoup d'intervenants. Tout ça pour dire que, pardon, je parle beaucoup, hein,
C'est pas grave, c'est passionnant.
non, mais tout ça pour dire que effectivement, au bout du compte, on est dans une histoire de famille dysfonctionnelle et on est presque dans un. Je lis évidemment pas mal de choses qui se sont écrites après, et puis je vois bien les gens comme ils sont touchés après les avant-premières. On en a eu beaucoup en Suisse. Les gens effectivement sont très touchés, oui, par cette histoire de famille qui au départ n'en était pas une, mais c'est venu naturellement dans le processus d'écriture. Et c'est vrai que c'est un film qui parle de la famille, de la violence, comment est-ce qu'elle se transmet et qui voilà, qui du coup c'est comme s'il y a une petite bombe au départ incarnée par cette femme, et puis on voit tous les dommages collatéraux que ça crée, d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle va elle transmettre, et du coup on est presque comme dans un Tchekhov
Est-ce
moderne.
que vous diriez quand même que, puisque vous disiez tout à l'heure que la violence féminine était tabou, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qu'on interdit aux femmes et que finalement, comme actrice, c'est un territoire intéressant à prendre? J'ai envie de dire, vraiment comme on parlerait en temps de guerre, c'est que vous, comme actrice, vous avez eu envie de marquer avec un drapeau que vous pouviez jouer ça aussi?
Ben c'est sûr que du coup, oui, ça c'est à la fois c'est à contre-courant et en même temps, comme vous dites, on est complètement dans l'air du temps, c'est-à-dire oui, une femme peut jouer un personnage comme celui-là et sans forcément expliquer pourquoi elle est comme ça. Parce que c'est évidemment des questions qu'on s'est posées beaucoup pendant l'écriture, c'est-à-dire un personnage masculin violent, on ne va pas se poser la question. Une femme violente, on va se poser plus la question, on est beaucoup moins habitué à ça. Mais oui, et puis c'était passionnant à explorer comme actrice, évidemment. La palette de jeu est telle dans comment le personnage il a été construit et où Ursula l'a amené que c'est vraiment un bonheur pour un acteur et pour une actrice d'incarner ça.
Alors, je vais quand même raconter le pitch. Je vais essayer en quelques mots. Je déteste le mot pitch. Alors, résumé de l'histoire plutôt. Donc, dans ce film, vous êtes Margaret, une jeune femme qui a une altercation avec sa mère, à la suite de laquelle elle est condamnée à rester à plus de 100 mètres de la maison familiale. Et donc, sa petite sœur Marion, qui est interprétée, pardon, je cherche son nom, par Elise Spagnolo, qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle joue de façon remarquable. Elle a l'idée de tracer une ligne pour savoir où sont ces 100 mètres et où donc sa grande sœur Margaret peut ou ne pas aller, jusqu'où elle peut s'approcher de la maison, à partir de quel moment elle est dans un cercle qui est dangereux pour elle, puisqu'elle peut aller en prison. Et donc, ça, moi, je pense que c'est un grand film sur la famille, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais je voudrais revenir sur vous, parce que dans ce film, vous êtes un personnage qui semble à la fois très fort, parce que vous défiez la loi de la mer et vous n'en avez pas peur, et vous y allez quand il faut y aller, c'est la scène du début et on voit. Mais en même temps, vous êtes très fragile, parce qu'on a l'impression qu'en permanence, vous souffrez d'être éloigné de cette famille.
Mais c'est sûr que c'est sa grande sensibilité qui est vraiment la cause de ces fracas à Margaret. C'est vraiment c'est parce qu'elle est ultra sensible, à fleur de peau. On a essayé d'éviter un maximum ou le plus longtemps possible d'utiliser le mot borderline, mais néanmoins c'est quand même un peu ça, beaucoup ça. Mais c'est sûr que du coup, tous les moments où sa fragilité jaillit, c'est vraiment les moments aussi où je crois le spectateur, il est en empathie avec elle et on a besoin de ces moments-là. Et ça a été aussi toute la construction sur la musique, cet héritage positif qu'elle a reçu de sa mère. Et du coup, comme un énorme contrepoint chez Margaret, c'est-à-dire que quand elle chante, quand elle compose, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux que ce qu'elle donne a priori comme première image. Et c'est vrai aussi que Ursula a choisi dans la construction d'aller à l'inverse d'un récit plus classique, c'est-à-dire on démarre par un climax, On démarre par une scène extrêmement violente et peu à peu, malgré cette interdiction, malgré cette ligne, malgré cette barrière qui vient se mettre entre elle et sa mère, il y a quelque chose qui peu à peu s'adoucit. C'est comme si d'un coup, il y avait une distance plus juste entre les êtres et quelque chose s'apaise parce que d'un coup, oui, il y a moins de... On pourrait croire que Margaret, en fait, c'est ça que je veux dire, on pourrait croire qu'elle va complètement péter un plomb au moment où, évidemment, l'injonction d'éloignement est donnée, mais en fait, pas du tout. Elle est juste assez névrosée que pour se dire que tous les jours, elle va retourner à cet endroit en espérant ne pas perdre le lien, hein, parce que c'est vraiment ça qu'elle... Son but ultime, c'est ça, c'est que le lien ne se casse pas, c'est d'être légitime, c'est de ne pas être abandonnée. Donc, sa petite sœur qui est vraiment là entre elle et sa mère pour... En sandwich, en tampon, avec un défi de loyauté permanent. Mais du coup, je m'égare pour répondre à votre
c'est
question.
Pas mais... C'est pas grave, j'en ai d'autres. Votre personnage est justement très impliqué dans ce rapport avec cette petite sœur. Elle répète ensemble parce que la plus petite des deux, donc Marion, doit participer à une fête religieuse, si j'espère avoir bien compris.
Oui, tout à fait.
Et là aussi, on voit toute la tendresse du personnage. Ce n'est pas un personnage qui est d'un bloc, qui est violent. C'est aussi un personnage qui est capable de tendresse, qui essaie de protéger cette petite sœur, de l'accompagner, de l'aider à grandir.
Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression, et c'est vrai que dans comment on l'a travaillé, même sur le plateau avec Ursula, c'est comme si d'un coup, Margaret, elle voit en sa petite sœur ce qu'elle était peut-être elle petite. Et donc elle voit, elle revoit, elle réentend, elle est nouveau témoin des névroses et des écarts de sa mère, de son côté très infantile.
Ouais, c'est vrai que la mère est presque la petite sœur des trois sœurs,
oui,
étonnamment.
Oui,
il y a quelque chose comme ça.
Il y a cet attachement immense parce qu'évidemment, il est peu question du père et c'est tout à fait assumé, tout à fait voulu. Mais on se sent que ces femmes, elles sont quand même extrêmement soudées. Margaret, elle est quand même revenue là en sachant que ça allait être compliqué. Elle revient quand même toujours et donc... ça a été vraiment hyper passionnant aussi dans l'écriture et aussi sur le plateau. Il y a tellement de couches que c'est vraiment c'est cette famille qui essaie de vivre avec cette montagne de non-dits, d'incapacité à exprimer les choses et chacune fait comme elle peut. Autour de cette mère qui a pris beaucoup de place.
Alors la mère quand même, on va la citer, c'est Valeria Bruni Tedeschi hein, qui se joue ce rôle et qui elle aussi est sublime. Je suis désolé de le dire, mais vous êtes quatre femmes avec India Air, Elise Pagnolo, Valeria Bruni Tedeschi et vous êtes toutes les quatre magnifiques. On n'a pas l'impression qu'il y en a une qui tire la couverture à aucun moment à elle. Vous jouez vraiment entre vous. Vous avez travaillé comment ce rôle? Vous avez fait comme De Niro, puisque vous citiez tout à l'heure cet exemple de Taxi Driver. Vous avez suivi, parce que c'est de la boxe
non,
là aussi.
Moi, 6 mois avant le début du tournage, je me suis tout à fait retirée de l'écriture, voire même un peu plus. Et du coup, je l'ai travaillé en amont, mais comme je travaille mes autres personnages, c'est-à-dire vraiment j'ai essayé de... la trouver dans mon corps, d'essayer de sentir comment elle bougeait, comment elle respirait. Et puis, j'ai questionné son rapport avec chacun des membres de sa famille. Et c'est toujours excitant pour moi quand je fais ce travail-là, qui n'est pas très psychologique, en fait, qui est plus de me dire, tiens, comment elle est avec sa sœur, comment elle est avec son autre sœur, comment elle est avec sa mère, comment elle est avec l'homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé. Et puis, comment, du coup... sur base de ça, c'est essayer de colorer un peu chacun de colorer un peu sa palette pour essayer de la comprendre au maximum et puis d'arriver sur le plateau le plus disponible possible parce que c'est un personnage qui est tellement dans l'instant qu'il fallait pas que j'aie trop en tête d'où elle venait, ce qu'elle allait jouer demain, ce qu'elle venait de vivre la veille. Elle a quelque chose de très enfantin, Margaret, dans le ici, maintenant. Et donc, du coup, d'une prise à l'autre, d'ailleurs, Ursula me demandait des choses extrêmement différentes pour que ça soit jamais là où on attend, là où on l'attend.
Vous qui êtes chanteuse, vous avez travaillé votre voix, parce qu'elle a aussi une voix qui peut faire parfois contraste avec son corps. C'est quelque chose que vous avez travaillé?
Oui, j'ai travaillé ma voix, oui, quelques années quand même.
Non, mais je voulais dire pour ce film, bien sûr, je me doute bien comme chanteuse et comme actrice, mais est-ce que vous avez fait un travail particulier sur ce film?
Non, pas du tout.
Donc ça c'est vous, c'est votre naturel, enfin c'est...
Oui, j'ai évidemment un peu... Ursula m'a demandé d'apprendre les chants religieux, donc j'ai progresser à la guitare, parce que l'air de rien, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'accords. Et puis sinon, non. Alors après, oui, elle m'a demandé d'écrire un texte particulier pour la chanson que Margaret chante à un moment donné toute seule. Donc c'est vrai que du coup, ben, c'est pas moi, c'est pas forcément ce que je fais moi dans mon univers à moi, mais ça n'est pas très éloigné du tout.
Vous venez de dire que vous aviez arrêté 6 mois avant à travailler sur le scénario, mais quand même, est-ce que c'est différent de jouer au cinéma un rôle qu'on a participé à écrire, ou est-ce que vous étiez sur le plateau actrice et c'était très clair pour vous, tout le travail que vous aviez pu faire avant ne comptait pas ?
Non, j'y ai plus du tout pensé au scénario quand j'étais sur le plateau. C'est un exercice que j'ai un peu expérimenté au théâtre. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois, et d'ailleurs dans 2 semaines, je serai de nouveau au théâtre dans un texte que j'ai écrit. Donc de jouer et puis en fait de déléguer la mise en scène à quelqu'un d'autre et d'avoir écrit le texte. Et j'arrive tout à fait à faire la part des choses. Ici, c'est vrai que c'était passionnant parce que disons qu'on s'est posé tellement de questions sur Margaret que c'est sûr qu'on avait exploré beaucoup de pistes.
Il n'y avait pas des moments où vous étiez en désaccord, par exemple, pour la manière de jouer une scène, parce que vous l'aviez imaginé autrement ?
Non, pas du tout.
Vous étiez vraiment raccord tout le temps ?
Oui, tout le temps.
C'est peut-être ça qu'on sent aussi en voyant le film, peut-être, pardon.
Non, je me suis vraiment laissée aussi guider par Ursula, et c'est une réalisatrice qui dirige extrêmement bien les acteurs, parce qu'elle a d'abord une immense bienveillance et un immense amour pour les acteurs, et en même temps, elle est très précise et il y a quelque chose de très animal qu'elle dégage et qu'elle déploie sur le plateau, mais toujours avec une grande humilité, générosité. Et du coup, elle donne à ses acteurs une grande confiance en eux. Et je crois que quand un acteur a vraiment confiance en lui, il arrive à déployer des choses qui lui échappent. Et c'est ces moments-là qui intéressent Ursula, et je crois qu'elle y arrive quand même chaque fois.
Et entre vous, entre les acteurs, les actrices, parce qu'il y a quand même quelques hommes dans ce film, même s'il y a beaucoup de femmes, ça se passait comment ? C'était simple aussi ?
C'était très simple, et en fait, paradoxalement, on était en train de tourner quand c'était encore la période Covid, donc on était interdit de voir beaucoup de gens à la fin de nos journées de tournage, et du coup, ça a créé quelque chose, une vraie bulle, hyper agréable. On était sur le décor, tous, on logeait à quelques mètres de là. Donc ça a créé une belle atmosphère entre nous.
Et dernière question, après, presque dernière question, avant dernière question, il y a quand même un décor aussi très particulier, ces montagnes. Est-ce que ça a une influence sur la manière de jouer ? Est-ce que, en tout cas, vous sentiez le poids de ce décor minéral, très presque abstrait ?
Je sentais le froid, et ça, du coup, oui, bah, ça aide, je trouve, toujours. C'est pour ça que je crois que j'adore le cinéma. En fait, on est...
Ah oui, vous étiez vraiment dans le froid ? Pardon, quand vous étiez en train de répéter avec la petite, vous étiez vraiment dans le froid ? Vous aviez vraiment froid ?
Oui, on était vraiment dans le froid, oui.
Oui, pardon, vous disiez, excusez-moi, que vous adoriez le cinéma,
parce que du coup, il y a cette espèce de... On filme la vie, mais nous, c'est-à-dire que tout se met quand même en place pour nous aider aussi, nous, acteurs, à être au plus proche de la vie. Parce qu'on est sur un décor naturel, voilà, au milieu de... à côté d'un canal, à 2 heures du matin, il fait très froid. Et donc, en tout cas, ce tournage-là, avec cet univers-là, je trouve que ça a vraiment aidé ça a aidé.
Vous allez là être donc au théâtre, vous venez de nous dire. Après, vous avez d'autres projets de cinéma ?
Non, je me lance dans l'écriture d'un nouveau scénario, mais c'est vraiment le tout début. Et puis, je suis à l'affiche d'une série belge qui vient de se terminer. On a tourné la dernière saison l'été dernier, et ça sortira au printemps sur Netflix. Ça s'appelle Ennemi public.
Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie Blanchot. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de la ligne Un film d'Ursula Mayer qui passe encore dans plusieurs cinémas à Paris, puisqu'on est d'abord parisien et sûrement partout en France, si vous nous écoutez via le web. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.
Voilà. Voilà, c'était La Relève. C'était présenté, préparé par... Oui, parce que c'est préparé par Christophe. La réalisation était assurée par Alison. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le site web de Radio Campus Paris. Elle est à 19h. Vous retrouvez la matinale de Radio Campus Paris. Et nous, on se retrouve pour La Relève dans 15 jours. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.